بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. Dans le dernier verset de la sourate Al-Fatiha, après qu'Allah Azza wa Jal nous ait révélé la définition du droit chemin, sourate Al-Mustaqim, c'est quoi? C'est le chemin de ce qu'Allah a comblé de ses bienfaits. Et on a vu le jour de Qiyamah qui seront ceux qui ont été comblés de ces bienfaits. Alors je reformule, le jour de Qiyama, nous verrons qui sont ceux qui ont été comblés de ces bienfaits. Parce que dans ce dunya, il y a des gens qui sont comblés de bienfaits, mais quand on les voit, on pense que Masakin, Maindahushay, il n'a pas d'argent, il n'a pas de titre, il n'a pas de notoriété, il n'a rien du tout. Mais on ne sait pas ce qu'Allah lui a accordé en termes de puissance, de foi, de conviction, de capacité de s'en remettre à Allah. Hubbullah, l'amour d'Allah brûle dans son cœur, la crainte d'Allah est installée, il a le ilm nafi', la connaissance religieuse, il a le tawfiq d'être présent tous les matins pour qiyamul layl. Subhanallah, c'est quelqu'un qui jeûne tous les lundis, tous les jeudis, 3 jours par mois. C'est quelqu'un qui reste dans la masjid ba'da salat al-fajr hatta tulu' ash-shams fi dhikrillah fi tilawati al-quran fi du'a. Il reste dans la masjid, il prie, il fait des du'a, il lit le Quran, il fait le dhikrullah jusqu'au lever du soleil, il fait le shuruq, il rentre chez lui et il va travailler un petit boulot, comme on va dire. Un travail qui n'est, voilà quoi, juste suffisant pour kasbur rizq, pour avoir sa subsistance halal, pour ne pas avoir à tendre la main. Et quand on voit ce monsieur, on dit, ben, c'est quelqu'un de discret. Jamais entendu parler de lui, rien de spécial. Mais on ne sait pas, on n'imagine pas comment Allah l'a honoré et l'a élevé au-dessus de ces personnes qui ont les biens de ce monde, les titres, les caries VIP, les relations et ainsi de suite. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils ont de ce dunya? Ben, ils ont le dunya bas. Et le jour de Qiyama, c'est là que les réalités vont être visibles. C'est le jour de Qiyama qu'on va voir qui sont ceux qui ont été comblés de bienfaits par Allah Azza wa Jal. Et là, bien sûr, les Anbiya, on a bien compris, mais quand on parle de As-Salihin, les gens pieux, ben voilà un exemple, ce qu'on a cité, de personnes pieuses. Et donc, dans Sirat al-Ladhina an'amta alayhim, on a eu l'occasion de développer le verset de la Sourate An-Nisa de la dernière fois. Et les savants disent à ce propos que on doit réaliser que le Akhira est l'aboutissement de ce monde. Ma situation dans l'au-delà, c'est le résultat de la façon que j'ai vécu dans ce monde. Quand on a déjà fait le parallèle en Hidin al-Sirat al-Mustaqim et le verset de Tabarak al-Ladhi, tu demandes à Allah de te guider, Hidin al-Sirat al-Mustaqim, et Allah te garde le droit chemin jusqu'à la mort. Et le jour de Qiyama, cette personne, Afaman yamshi mukibban ala wajhi yahda, on a déjà répété 4 fois ça, Amman yamshi sawiyan ala sirat mustaqim la tabarak alladhi. Cette personne le jour de qiyama, il continue son chemin, Saadi dit, il continue son chemin de droit chemin de sirat mustaqim jusqu'à l'accès au jannah. Et c'est une règle que nous devons retenir, c'est la relation entre chaque parole, chaque geste, chaque décision de ce monde et ce qu'on va retrouver dans le delà. C'est un peu ce qu'on appelle le ihtisab, c'est l'espoir de rétribution, c'est être conscient que les actions que nous accomplissons, ce ne sont pas juste un rituel et puis ça se termine là. Non. il y aura quelque chose, un débouché, un aboutissement là-haut. Mais pareil pour les péchés du coup. Pareil pour les erreurs, les péchés. Si on a fait quelque chose de mal, ça ne s'arrête pas à ce dunya. Si on n'a pas pu demander tawbah à Allah Azza wa Jal, malheureusement, nous risquons de retrouver le péché et ses conséquences le jour de Qiyama. Et ça, on ne peut pas se le permettre. C'est la pire des choses, c'est de retourner auprès d'Allah avec des péchés dans notre livret de compte. Qu'Allah nous protège. Parce que dans notre din, il y a tellement de clémence divine. Allah nous pardonne par de multiples façons, par différents moyens, j'allais dire par différentes actions. Parfois des actions qui sont, entre guillemets, minimes, des actions qui sont, qui passent inaperçues. Mashallah, tu as fait tes ablutions, tu n'imagines pas le nombre de péchés qui ont été effacés par l'eau du wudu. Le frère, mashallah, il a quitté sa maison à pied, il est venu, chaque pas. Des fois, je vois des frères qui montent la rue là-bas, là, je ne sais pas à quel endroit. Je dis, ben, je les dépose. Après, je dis, ben non. Quand c'est bonheur, non. Je dis, ben, mashallah, il va marcher. Chaque pas, ce sera des bonnes actions, hasanat, des péchés effacés. Tout ça, Allah nous accorde. C'est-à-dire que les portes du tauba sont accessibles de façon consciente, en demandant, mais également par des actions du quotidien, comme la surat Kahaf qu'on a lu aujourd'hui. Et ainsi de suite. Mais celui qui, le jour de Qiyama, se présente devant Allah avec des péchés qui sont encore dans son livret d'action, c'est que la personne n'a pas fait le moindre effort pour obtenir le pardon. Ça, c'est là la pierre. Donc, le jour de Qiyama, on voit, on verra les personnes qui ont été, qui seront honorées aux yeux de tous. Et les savants disent que ta vie de ce dunya, son aboutissement, c'est dans le akhir. Et puis, le Mufassir dit également, ikhtar. Ma'aman turidu an tuhshar. Choisis, fais ton choix de ce dunya avec qui tu veux être ressuscité. On a vu le sens du hadith al-mar'u ma'aman ahabba. La personne sera avec celui qu'il a aimé. La personne de l'au-delà sera avec celui qu'il a aimé dans ce monde. Et ça rejoint le verset de la dernière fois et ce que le sahaba avait dit concernant son amour pour le prophète alayhi salat wa salam. Donc, je dois réaliser que si mon cœur de ce dunya allait vers ben, les gens qui baignent dans le péché, il y a de fortes chances que le jour de Qiyama, je sois également avec eux, qu'Allah nous protège. Dans, je ne sais pas dans quel chapitre, mais dans un des ajza au début, Allah Rabbul Izzah nous rappelle que ceux qui consomment l'intérêt la yaqoumouna illa kama yaqoumu alladhi yatakhabbatuhu ash-shaytanu min al-mass dhalika bi annahum qalu innama al-bay'u thurriba. C'est des gens qui ont légalisé l'intérêt. Ils ont dit que l'intérêt c'est comme le commerce, c'est la même chose, c'est bref. Le jour de Qiyama, ils seront ressuscités d'une façon particulière, dans un lieu précis, c'est-à-dire parmi des gens précis et d'une façon humiliante. Ils seront comme des personnes possédées qui sont complètement fous, le jour de Qiyama, aux yeux de tous. Retenez, hein, aux yeux de tous, le jour de Qiyama, on voit tout ce qui se passe. Donc les savants disent que si dans ce dunya, ton cœur est rempli d'amour de ce monde, et cet amour, il te pousse à repousser les limites du halal. J'ai besoin d'argent, donc je vais à la banque, je vais prendre des crédits à droite et à gauche sans me soucier que c'est interdit ou autre chose. Ben, le jour de Qiyama, voilà la situation de celui qui aura légalisé l'intérêt. Donc, tu veux être comme lui le jour de Qiyama ou alors être honoré par Allah et être ressuscité, être avec les prophètes, les anbiya, les salihin. Donc, c'est maintenant que nous devons prendre les bonnes décisions. Qu'Allah guide nos cœurs vers les meilleurs des choix. Vers le sirat, c'est le ihdina sirat al-mustaqim, pour que le jour de Qiyama, je continue cette lancée vers le sirat al-mustaqim qui m'amène vers le jannah. Et enfin, l'auteur conclut, il dit que n'imagine pas une seconde que, vous savez, parfois il y a des gens dans ce monde qui ont acquis tout réussi. Il y a des gens qui, comme ça, ils ont, je ne veux pas dire qu'ils ont de la chance, mais voilà, ça passe. ils ont les moyens, ils ont des contacts, des relations, et ils arrivent à faire tout ce qu'ils veulent. Je vous donne un exemple bête, hein, il veut prendre un avion, tout le monde est en waiting list, tout le monde est embêté, il n'y a plus de place, d'accord? Et lui, gros oiseau, il arrive, il débarque, tac, tac, il a des contacts, il a sa place en classe affaires, upgradé. Il y a des gens comme ça qui tout réussit. Mais ça, ça marche peut-être dans ce dunia. Parce que c'est un monde qui en finalité n'a aucune valeur. Mais que jamais une personne pense que comme je réussis toutes mes étapes de ce monde, il est sûr que de l'au-delà aussi, même si je n'ai pas prié, même si je n'ai pas été un bon croyant, je dis qu'Yama, c'est bon, Allah va m'accepter, je vais entrer dans le Jannah. Non, c'est ton petit monde ça ici là. Ici là, c'est ton petit dunya à toi ça. Tu l'organises, tu gères, tu as tes contacts, tu as tes amis, ainsi de suite, qui fait que, voilà, ils trouvent toujours une place pour toi. Mais le jour de Qiyama, c'est un autre monde, ça. Il y a un seul Malik là-haut. C'est qui? Malik Yaoumiddin, le maître du jour de la rétribution. Là-haut, il n'y a pas de camaraderie, il n'y a pas de relation, il n'y a pas de grande famille, il n'y a pas de famille fortunée, il n'y a rien, il n'y a rien. Il y a ce qu'Allah veut bien t'accorder. Bas, rien d'autre. Qu'Allah guide nos cœurs et nous permet de nous réveiller pour maintenant même prendre les bonnes décisions. Et justement, le verset de clôture, c'est le contre-exemple. Voilà le chemin qu'Allah aime, an'amta alayhim, et surtout pas, ceux qui ont couru sa colère, et non pas le chemin, je n'ai pas la traduction sous les yeux, mais et non pas le chemin des égarés. Donc deux sifat, deux péchés, deux modes de vie, deux sources d'égarement. Ceux qui ont encouru la colère d'Allah, radab, mahdoub, et ceux qui se sont égarés. Alors bien sûr, le prophète avait clairement identifié les deux catégories, hein, des gens du livre d'avant. Maintenant, bien sûr, là, après, il y a quelque chose qui s'appelle l'intelligence du contexte. Dans un contexte, on doit bien distiller, on va dire, les informations et donner ce qui, bien sûr, est profitable sans créer une fitna. Donc, aller citer des noms, c'est peut-être pas ce qui est le plus constructif à notre époque. Ce que nous retenons, c'est qu'il s'agit des gens du livre d'avant qui se sont éloignés du droit chemin, et parmi eux, il y en a qui se sont distingués par la connaissance. Ça, c'est Al-Mardoubi alayhim. Et As-Sa'di dit, c'est As-Sa'di même, oui, dit pourquoi est-ce que Al-Mardoubi alayhim, ils ont été cités avant Abdalin, parce que ce péché-là est plus grave. Ce qui est plus grave, c'est ces personnes qui avaient le ilm. Ils avaient la connaissance religieuse. Mais, Kamathiri al-Himari, qui porte quoi? Asfara. Un âne. Il porte des charges de l'or, de l'argent, des bijoux, des choses de valeur, mais l'âne, il n'est même pas conscient de ce qu'il porte. Ben, c'était la même chose. Ils avaient la connaissance, mais ils ne donnaient aucune importance à la connaissance. Et ils ont au contraire vendu la religion à bas prix pour avoir des avantages. Donc, ça, c'est la pire des choses. C'est quand tu connais le haq, mais pour avoir... mais par intérêt, ou par avoir l'honneur, ou par avoir je ne sais pas quoi, tu vas prendre un autre chemin pour satisfaire les gens et pour éviter les conflits, et tu délaisses le haq. Ça, c'est la pire des situations qu'Allah nous protège. Parce que l'auteur dit que, bien sûr, Al-Mardoub al-Alim, ça concerne telle personne, mais également, et c'est là où on voit toute la sagesse de As-Sa'di, qui est un contemporain, je le rappelle, et qui nous amène à un tafsir qui est, Mashallah, accessible et qui permet à chacun de s'y retrouver. Il dit que Al-Mardoub alayhim, il dit c'est qui? Wa kullu man 'alima bil haqq wa lam ya'mal bihi. Ça concerne également toute personne qui a appris et qui a connu c'est quoi le haqq, mais qui ne l'a pas mis en pratique, en application. Et wala dhalin, il dit que bien sûr on sait c'est qui, quelle communauté ils ont été égarés, mais également tous ceux qui ont œuvré bighayri al-haqqi jahilan bihi, ceux qui ne connaissaient rien, ceux qui n'avaient pas la connaissance du haqq, C'est-à-dire qu'ils ont été induits en erreur depuis des générations, qui les ont guidés vers des croyances faussées, et ils ont continué d'avancer dans le djahl, dans l'ignorance. C'est-à-dire que la personne qui pratique sans connaissance et qui fait et qui commet des erreurs. Donc ce sont deux chemins qui sont opposés au sirat al-mustaqim, et Allah Azza wa Jal qui a révélé les livres, qui a envoyé les prophètes, qui a décidé de protéger le din islam, il nous montre comment d'autres personnes, d'autres peuples avant nous avaient reçu un livre, avaient eu un prophète, mais comment est-ce que la protection de leur livre leur avait été confiée et comment est-ce qu'ils se sont égarés. Donc afin qu'on ait l'exemple, mais également les deux contre-exemples, pour ne jamais aller vers les chemins de l'égarement, vers le chemin de l'égarement. Et je le répète, c'est important, parmi les caractéristiques de l'égarement, c'est que tu connais la vérité, tu as appris, tu connais c'est quoi le tawhid, c'est quoi la sunna, tu connais c'est quoi la bid'a, tu connais c'est quoi les choses qui sont mauvaises, les choses qui sont bonnes, mais tu ne suis pas ce que tu connais. Et l'autre erreur, c'est avancer la tête baissée, les yeux fermés. Tu ne connais pas, tu n'as pas de connaissance, mais tu avances, tu continues à avancer et tu ne vas pas rechercher la lumière. Les deux sont impardonnables, qu'Allah nous protège de ces mauvais chemins. Et avec ça, Amin, l'auteur conclut et dit qu'après la lecture de Al-Fatiha, qu'est-ce qu'on dit ? Amin. Et dit qu'attention, Amin ne fait pas partie de la surat Al-Fatiha. C'est pas un verset, ça, Amin. Hein? Al-Fatiha, c'est Amin. Amin, ça veut dire « Oh Allah, accepte. Istajib ya Rab. » Hadith de... Je le retrouve. J'ai pas le nom du sahaba. J'ai juste le début du hadith. Le prophète m'a dit « Iza qala l'imamu غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا جلي فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري. Bon, ça me dit que lorsque l'imam dit il complète la Fatiha, dites Amin, car si votre Amin coïncide avec le Amin des anges. Déjà, on déduit quelque chose. Quand tu pries en jama'a, la salat ma'al jama'a, derrière l'imam, il y a la présence des malaïka. Et ce n'est pas une présence furtive, c'est une présence qui est active, ils suivent la lecture. Et lorsque l'imam dit, il termine la fatiha, les malaïka disent Amin. Et le Amin, il demande à Allah d'accepter. Qu'est-ce que j'ai demandé de plus cher dans la Fatiha? Ihdina as-sirata al-mustaqim. Je demande à Allah, guide-moi et protège-moi du coup des mauvais chemins. Et pour cette demande qui est la demande de ta vie, les anges disent Amin. Et vous savez que les anges, le doigt, sont acceptés. C'est-à-dire que prier des imams, c'est quelque chose qui est inestimable. Et deuxième chose que je retiens, au-delà de la guider et la protection de l'égarement, quand je dis Amin et que les anges disent Amin, Rufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ça veut dire quoi ça? Qui traduit ça? Ah, y a Ali. Antérieur, Allah ibarik fik. Enfin, ça veut dire que celui qui dit Amin, je répète, et que son Amin coïncide avec celui des anges. Mais en fait, quand l'imam finirait le mardoum al-dallin, et jusqu'à ce qu'il démarre une surat, il y a combien de secondes? Il y a 3 secondes. Donc, c'est sûr, ça a coïncidé, bi-idhnillah. Ben, les péchés accomplis, les péchés antérieurs sont effacés par Allah. Je disais tout à l'heure, le nombre de fois qu'Allah pardonne nos péchés facilement, ben, prie avec l'imam, prie à la mosquée tout le temps, mashallah. Là, tu fais la salat al-Isha, il a dit une fois Amin, premier rakat. Il a redit une deuxième fois, deuxième rakat. Mais mashallah, combien de péchés sont effacés? Tellement Allah Azza wa Jalla est pardonneur. Ma'ahada. Et de cette façon, nous complétons, bi'idhnillahi azza wa jal, le tafsir de la surat al-Fatiha, en implorant Allah, Rabbul Izzah, dans sa clémence, dans sa miséricorde, par sa grandeur, par sa puissance, de nous accorder le ilmun nafi'un. et la compréhension saine de ces 7 versets et que la puissance de ces versets pénètre nos cœurs. Pour que lorsque j'entends l'imam lire Al-Fatiha, ça doit bouger là-dedans. Mais bouger de la bonne façon. C'est la foi, elle est en ébullition. Je m'accroche, je me concentre, j'ai la conviction qu'Allah est attentif à ma salat, il me voit, il me regarde, il m'observe, il m'entend, il m'écoute, il sait ce qu'il y a dans mon cœur et il me répond. Car chaque verset d'Al-Fatiha, ben pour chaque verset, il y a une réponse de la part d'Allah. Et que quand j'implore Allah en citant ses noms et ses qualités, Rabb al-Alamin, Seigneur des mondes, Rahman, Rahim, Clément miséricordieux, Malik Yawmiddin, Maître du jour de la rétribution, que je ressens vraiment devant qui je me tiens. C'est ça le but. C'est ça le but. Créer, développer la dévotion, la concentration et réaliser la grandeur d'Allah et sa puissance. Et lorsque je dis Yakana Abdu Yakana San, j'ai yakin que je suis là pour Allah. J'ai été créé pour Allah. Et je ne m'en remets qu'à lui. Et quand je lui demande à guider, je réalise que c'est ça le plus important. C'est ça ma vie. Si Allah m'a guidé, j'ai été accepté et mon passage à ce dunya aura été validé par Allah Azza. Qu'Allah Rabbul Azza fasse pénétrer cette connaissance dans nos cœurs, ouvre nos cœurs, nos poitrines et nous permet, Inch'Allah, d'avoir une meilleure compréhension d'Al-Fatiha et de prier avec plus de dévotion, de concentration et de le transmettre. On va terminer. On voulait répondre à une question. La dernière fois, on a tenu notre promesse. Hein, quelqu'un m'a dit que c'est le frère qui dit tu réponds pas aux questions. À Saint-Denis, au centre-ville, je sais pas où. On avait répondu à une question concernant les parents. C'était ici même, ça, non? Au centre-ville. Une question épineuse concernant les parents qui sont un peu compliqués. Et là, il y avait un frère qui, depuis des mois, m'a demandé j'ai des doutes. Quand on a des doutes, on doit contacter qui normalement la redoute, non? Fini ça, non? J'ai des doutes dans mes prières, dans mes ablutions, dans tout. Ça s'appelle des waswas de Shaitan. Il y a un autre terme en arabe, mais on ne va pas développer, on a terminé. On fera ça peut-être vendredi prochain, Inch'Allah, éventuellement, si vous êtes disponible. Ce sera le 24, à moins que quelqu'un, à cette heure-ci, doit mariner, farcir sa dinde, je ne sais pas, le frère, d'accord. Mais, d'accord. Donc, on peut développer sa question, parce que c'est une question qui est, peut-être les gens n'avouent pas, mais voilà, c'est un vrai problème. Ça t'affecte spirituellement, mais également psychologiquement. Et Shaitan fait un travail sur toi parce qu'il t'amène vers ce qu'on appelle At-tanattu'. Et très souvent, on confond At-tanattu' avec la piété. C'est pas la piété. C'est quand tu exagères. Tu en fais trop. Il ne faut jamais en faire trop dans la religion. Allah avait dit aujourd'hui, Ya Ahl al-Kitab ila. Ya Ahl al-Kitab ila. La taghlu. Qui a dit? Barakallah fi. Ya Ahl al-Kitab ila taghlu fi dinikum. N'exagérez pas. Donc les gens exagèrent dans les wuzous, dans les ablutions. Et Salah, il commence, il recommence, il fait. Et c'est maladif. Hein? Les psychologues, parfois, ils parlent de TOC, trouble obsessionnel du comportement. Ben, il y a ça dans les pratiques religieuses, parce qu'on crée des circuits qui ne doivent pas exister. C'est un lien avec Allah directement et on le coud à circuit avec des pensées envahissantes, des doutes et tout. Bref, ça mérite un petit développement. On avait prévu 8 points. Inch'Allah, on gardera ça pour la prochaine fois. Jazakumullah khair. Cher. Je clôture mon enregistrement. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khaira.